émission, l'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Quelque chose d'urgent. Il y va à 21h. Sonne. C'est elle qui le reçoit, toujours habillé de noir. Bonsoir, entrez. Il entre et elle ferme la porte. Elle le mène au bureau de son père. Ils s'assoient tous deux sur des fauteuils près de la cheminée. Elle lui dit : J'ai trouvé un papier de mon père où il parle d'un dossier important à prendre à la mairie. Il faut que vous en appareilliez et faire vite. Il y va de votre vie. Vous risquez que l'on vous éjecte pour faire de la place pour de nouveaux locataires. Il demande où l'on risque de m'éjecter pour aller vers une réalité plus terrible que le cauchemar. Elle sort de sa poche une clé et la lui tend. Voici la clé pour rentrer à l'hôtel de ville pour prendre le dossier. Si vous ne le prenez pas, tout est perdu. Je le prendrai. Passez par la porte de droite. Vous irez au sous-sol, il y a des rayonnages pour les archives. Vous chercherez le dossier 531. 531. Si vous ne le prenez pas, tout est perdu pour nous. Je le prendrai. Elle sort de sa poche un bout de papier et le lui tend. C'est un petit plan pour vous retrouver. Avec une lampe électrique, la clé et le plan, il va à la mairie. Tout est calme, pas de bruit. Il trouve la porte de droite, une toute petite porte en bois pour le service. Il va l'ouvrir. Allume avec la torche électrique, regarde autour de lui, voit un long couloir carrelé, regarde son plan, suit le couloir, puis se va vers une porte qu'il va ouvrir avec la même clé. Il trouve les escaliers qui sont en bois. Il descend. En descendant, il entend un drôle de bruit, comme quelque chose que l'on grignote. Arrivé en bas aux archives, il trouve les rayonnages en bois, plein de dossiers. Il voit avec horreur que les archives sont envahies par des rats, d'énormes rats qui grignotent les dossiers. Il s'avance. Les bêtes ne font pas attention à lui. Il entend derrière lui une voix. Toute la ville est envahie par les rats qui mangent tout sur leur passage, même les hommes. Regardez. Il se retourne et voit Moïra. Il montre un homme à terre, gisant dans le sang. Il soulève le bras de l'homme et il voit. Il lui manque la main. Le bras est ensanglanté. L'homme lui dit « Qui est-ce ?» Elle lui répond « C'est un nouveau. » Il est paranoïaque. Elle lâche le bras de l'homme et dit à Frédéric, ne restons pas là, montons. Il la suit. Dehors, il y a foule, les gens crient, courent, les rats sont de partout. Il y a aussi des blessés. Ils réussissent à se faufiler de cette foule. Elle lui dit, allons chez moi, il la suit. Dans une petite rue transversale, il trouve la Rolls. Il s'engouffre dedans. La voiture file. Arrivé chez elle, elle le fait asseoir au salon dans un fauteuil. Vous désirez boire?
Oui.
Un bourbon? Non, ça me rappelle un trop mauvais souvenir.
Cognac?
Oui. Elle va à une table bar prendre une bouteille et deux verres. Va mettre la bouteille et les deux verres sur la table basse qui est en face de lui pour le servir. Une fois qu'il est bu, elle lui demande « Que désirez-vous savoir ? Qu'est-ce que cette ville ?»«
C'est une ville sombre, noire, le cauchemar. »«
Pourquoi y suis-je entré et comment ?» Elle pose son verre sur la table et lui dit
« On y entre le jour où on est allé trop loin, où la vie a basculé. Elle est un refuge. »
Basculer de quoi? Refuge de quoi? Elle fait tourner son verre sur la table et ne répond pas. Il reprend. Comment en sortir?
Si vous en sortez, vous le regrettez. Mais l'on peut en sortir en pensant très fort à soi et en n'ayant pas peur de la réalité. En réalité, vous rêvez la ville.
Oui, vous rêvez la ville. Elle est en vous.
Vous l'avez fait sortir de vous-même pour vous protéger de la réalité.
Que dois-je faire?
Vous devez avoir la force de vouloir guérir.
Je ne suis pas malade?
Non, mais vous vous êtes mis dans un état malade. Il vous faut entrer maintenant. Pensez à tout ce que je vous ai dit. Et... forcez-vous à guérir.
Elle se lève, lui aussi. Et il la quitte. La ville est à cri et à sang. Ça court dans tous les sens. On voit des maisons incendiées, des cadavres. Il court au milieu de la foule, se fraye un chemin. Enfin, arrive dans son allée. Malheureusement, les gens sont entrés en même temps que lui. Dans les escaliers, devant lui, menaçant la logeuse. À côté d'elle, un jeune homme. Elle lui dit « Vous n'êtes plus locataire chez moi. J'ai loué cette chambre à ce jeune homme. » Il est poussé par la foule. Les gens montent. La logeuse et le nouveau locataire essayent de lui barrer le chemin. « Vous n'avez pas le droit. Je l'ai loué. » Les gens poussent. Il ne peut faire autrement que de monter. La logeuse et son nouveau locataire sont plaqués contre le mur. Frédéric arrive. Il ouvre sa chambre. Fermé à clé. La foule pousse la porte. Pousse la porte. Elle est menaçante. Elle veut le prendre. La vieille crie à la foule. Attendez, j'ai la clé, vous pouvez le prendre. Et elle met la clé dans la serrure. paniqué, il se rue vers la porte condamnée. Met la clé dans la serrure. Elle marche, ouvre la porte et rentre. Trou noir. Se réveille, regarde autour de lui. C'est bien sa chambre. Il est bien chez lui. Regarde l'or sur le réveil qui est sur la table de nuit. L'or et le jour. J'ai rêvé. J'ai fait un cauchemar. Sors du lit. Il est en pyjama, a mis ses pantoufles, fait une clarté peu ordinaire. Il va voir à la fenêtre. Les volets n'ont pas été fermés. Voit un paysage enneigé. Regarde vers le bas et voit sur la neige des taches rouges. Il dit tout haut, du sang. Je me souviens. Oui, je me souviens maintenant. Je revois la scène. J'ai tué ma fiancée. Sorti le corps dans le parc pour l'enterrer. Pourquoi tuer? Où est son rêve? L'on frappe à la porte. Il se retourne. Entrez. Est entrée une femme grande, mince, brune, belle, habillée d'une robe beige. Il se dit, j'ai rêvé tout ça. Elle lui demande, ça va mieux? Oui, ça n'a pas l'air. Il se dit, j'ai rêvé? Mais le sang alors? Il sort de la chambre, elle le suit. Ouvre machinalement une porte. C'est un bureau. Oui, son bureau. Il entre, elle aussi. Il voit sur la table un paquet ficelé. Qu'est-ce? On l'a apporté pour toi. Il effaie la ficelle et arrache le papier. Et voit sur un classeur beige... Dossier 531, et dessus la photographie de la locataire Eurydice. Surpris, tremblant, il s'assoit. Et ouvre le dossier. Je vais pouvoir enfin connaître le fin mot de tout ça. Il se penche pour lire. Une poussière le fait tousser. Et il tombe la tête la première. Il est mort. Elle prend le dossier. Et sort de la pièce. Va dans la chambre où était Frédéric. Ouvre l'armoire. Entre dans l'armoire et fait pousser une porte. Elle se trouve dans une autre chambre qui ressemble à l'autre, mais sur la table de nuit, il y a des seringues et des ampoules de drogue. Elle pose le dossier sur la table de nuit et sort. en ville, elle rentre dans un immeuble. Au troisième étage, elle sonne à une porte. Un homme la reçoit. Il est grand, maigre, chauve, sur le devant, porte un costume gris. Il la fait entrer et ferme la porte. Elle lui dit « Oui, c'est moi. Il est mort. Crise cardiaque. Tu viens m'aider à déménager la chambre. » Il la fait asseoir dans un petit salon tout blanc sur un fauteuil. Il lui demande « As-tu fait venir un notaire ces derniers temps ?»«
Non, cela faisait des mois qu'il ne voulait voir personne. Nous avons gagné, chérie. Chérite, et nous nous marierons. »
Il se penche vers elle et lui dit, en lui baisant les mains,
« Est-ce que ça n'a pas été trop dur ?»«
Non, une fois menée dans la chambre endormie, grâce aux piqûres, avec un magnétophone caché dans la chambre, je suivais ses crises, ce qui me permettait de guider ses fantasmes avec des sons et ce dossier qu'il a trouvé dans son bureau. Je savais qu'aujourd'hui, il était au bout du rouleau. Ça ne vous pouvait pas être autrement. Avec toutes les piqûres que je lui faisais, il était drogué à fond. Il ne mangeait plus rien, maigrissait. Il avait de fréquentes crises d'hallucination. Ceci grâce à tes drogues que tu m'as données, mon chéri. Maintenant, tout ça est fini. À nous deux la vie. Si tu ne m'avais pas pris les devants, c'est lui qui m'aurait tué. Il ne pensait qu'à ça depuis qu'il nous avait vus ensemble. Tu te souviens la fois où il a failli me tuer avec un couteau de cuisine? Il courait après moi dans la neige. Si tu n'avais pas intervenu, il m'aurait égorgé. D'ailleurs, il m'avait blessé à la main avec son couteau. Le sang sur la neige l'a arrêté. Tu te souviens?
Six mois plus tard, elle trouve dans la poche de la veste de son défunt mari une photographie. Une photographie d'une jeune fille. Tourne la photo et voit, non, Eurydice. Elle ne comprend pas.
Qui est-ce?
Elle fouille encore dans la poche et trouve un papier froissé. Elle le défroisse. C'est un bout de lettre, mais ne comprend pas de quoi cela parle. Qui est la fille? Elle décide d'aller voir dans la chambre de Frédéric pour voir si elle ne trouve pas d'indice. Elle entre dans la chambre. Où il était drogué, cherche dans l'armoire et la table de nuit. Trouve rien, décide de sortir de la pièce. Mais la porte ne s'ouvre plus.
Tiens donc cette porte!
Elle entend derrière elle la porte condamnée qui s'ouvre. Se retourne et voit avec un balai et son seau la logeuse.
Et de Sainte-Croix, la prochaine fois, qui va le remplacer et connaître son secret? Thank you. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, le scénario original de Jean-Pierre Jugnet, de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.